Merci de me présenter, donc je suis l'abbé Bourrat. Alors vous avez eu une prédication d'instruction sur le péché et vous en avez médité, vous avez médité sur la catastrophe que constitue le péché, une catastrophe spirituelle, c'est la ruine de notre âme. C'est un principe de mort, en tout cas pour ce qui est du péché mortel, qui met comme un mur, comme un obstacle infranchissable entre Dieu et nous. Ce péché, pour résumer, nous fait préférer le créé au créateur, et il a pour conséquence d'entraîner pour nous un malheur éternel. Ce malheur éternel a commencé au péché originel, et nous le savons avec les conséquences dont nous vivons encore, à savoir la fermeture à l'origine du ciel pour nous. Il y a donc un obstacle qui s'est mis entre Dieu et nous, définitif, s'il n'y avait pas eu, de la part de Dieu, un grand élan d'amour envers sa créature qui était désormais déchue, et dans sa miséricorde, l'envoi de son divin Fils. Et nous avons dans ce mot, la miséricorde de Dieu, vous le savez sans doute, ce résumé du mystère de la rédemption. Dieu voit notre misère, cette déchéance complète qui nous a fait perdre, qui a fait perdre en tout cas Adam et Ève, les dons et le don de la grâce que Dieu leur avait donné. Ce don était en plus d'une nature rationnelle, une nature donc faite à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait en l'homme, il y a en l'homme une ressemblance quant à la nature, parce que l'homme est un composé d'un corps et d'une âme, et son âme est rationnelle, avec une intelligence et une volonté, et cela est une ressemblance avec Dieu. Donc Dieu s'était choisi une créature qu'il avait créée à son image et en plus à sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il lui avait donné la grâce. Et ça, c'est un don supplémentaire qui n'était pas inclus dans la création de la nature humaine. Et pourtant, Dieu l'avait donné à Adam et Ève. Et ils l'ont perdu par le péché originel. Cette perte a été non seulement pour eux, mais pour tous les descendants. Et c'était Adam et Ève étaient comme les dépositaires d'un trésor, et eux le perdant, eh bien c'est toute la descendance d'Adam et Ève qui le perdait. Alors nous en savons quelque chose, ce sont toutes les conséquences du péché originel, bien sûr, que ce soit la souffrance, la maladie, la mortalité, etc. Et dans sa miséricorde, Dieu s'est penché sur cette misère de l'homme et nous a donné son Fils unique. Son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et lorsque nous avons dit cela, eh bien on pourrait dire que nous avons dit tout le plan de notre vie. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'il est Dieu et en tant qu'il est homme, va nous permettre de relever la tête, va nous permettre de retrouver l'espérance face à cette destruction complète dans laquelle nous sommes nés, puisque nous naissons dans l'état de déchéance qu'ont connu Adam et Ève après leur péché, nous sommes ennemis de Dieu, et bien malgré cela, nous avons la certitude, par la foi, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous pourrons retrouver Dieu. Autrement dit, que ce mur apparemment infranchissable de déchéance va être brisé, va s'écrouler, et nous allons pouvoir à nouveau retrouver Dieu, retrouver ce bonheur auquel nous n'avions pas droit. Il n'y a aucun droit à l'union à Dieu, il n'y a aucun droit au bonheur éternel, et encore moins de droit lorsque nous avons perdu cet héritage surnaturel. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est celui par qui nous retrouvons non pas ce droit, mais ce cadeau. Car n'oublions pas que toute la vie de la grâce, qui se terminera, nous l'espérons tous, dans la vision béatifique, dans la vision en Dieu de Dieu, c'est un cadeau. Nous en reparlerons plus tard dans la retraite sur ce don de la grâce. Mais nous savons déjà que c'est notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui est la source de cette restauration du bonheur possible en Dieu. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est l'objet de cette instruction et cette méditation qui suivra, et bien sûr, une instruction qui pourrait durer des heures, mais rassurez-vous, je resterai raisonnable. Parce que, bien entendu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout notre vie. Notre Seigneur, c'est notre Dieu, c'est celui qui nous a sauvés. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sauveur, donc c'est son nom même indique ce qu'il est venu nous apporter. Et nous avons toute notre foi en lui, toute notre espérance en lui et toute notre charité vient de lui. Donc il doit être au cœur de notre vie et une retraite telle que vous la vivez actuellement est un moyen de retrouver cette évidence, si je puis dire, que nous ne pouvons pas vivre sans notre Seigneur Jésus-Christ. Et que si nous vivons sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous vivons purement naturellement. C'est-à-dire que c'est notre vie, effectivement, biologique, physique, qui fonctionne. Et tant que Dieu lui permettra, cela fonctionnera. Mais si nous ne vivons pas de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire si notre intelligence, si notre volonté, si tout notre être n'est pas, enraciné sur notre Seigneur Jésus-Christ, si tout notre être ne trouve pas sa source en notre Seigneur Jésus-Christ, notre vie est comme inutile aux yeux de Dieu et pour notre salut. La venue de notre Seigneur, la venue du Fils de Dieu sur terre est le cœur de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons pas d'événement plus important sur la planète Terre que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout tourne autour de cela. Depuis le péché originel, et même, on pourrait dire, sans le péché originel, le plus grand événement de la Terre, c'est la venue d'un Dieu qui se fait homme, qui prend une nature humaine et qui va offrir cette nature humaine en réparation de ce gâchis que nos premiers parents ont fait. Mais ne l'oublions jamais, parce qu'il y a souvent un petit peu une tendance en disant « Ah, si Adam et Ève n'avaient pas péché, ce serait quand même mieux, on ne serait pas là. » Mais n'oublions pas que nous aurions certainement été dans un comportement parfaitement identique au leur, très probablement. Donc ne préparons pas des vengeances froides lorsque nous les retrouverons au paradis. Il faut se dire que notre faiblesse actuelle, même si elle est due en partie aux conséquences du péché originel, eh bien nous avons facilement nous contractons facilement cet orgueil qui était l'origine, cette désobéissance qui était l'origine du péché originel. Donc on n'aurait sans doute pas mieux fait. Alors la venue de l'homme Dieu, du Dieu qui se fait homme sur cette terre, arrive, et donc l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, et arrive, on pourrait dire, tardivement. On peut s'étonner de cette venue assez tardive dans l'histoire de l'humanité du Sauveur. Eh bien, il est clair qu'il y a une convenance dans le plan de Dieu, ne serait-ce que pour nous montrer la gravité de cet état sans Dieu. Si le Sauveur était né, j'allais dire, deux générations après Adam et Ève, l'humanité, les hommes qui auraient suivi, ne seraient pas rendus compte de la gravité de cette perte de la grâce et de ce plan d'amour qu'avait donné Dieu, et en même temps des conséquences du péché. Et certainement, le péché serait apparu beaucoup moins grave quant aux conséquences, notamment, on le voit bien, dans les sociétés qui sont sans Dieu, dans les sociétés qui ont apostasié, dans la société dans laquelle nous vivons, nous voyons bien que c'est dans le temps que les conséquences de, on pourrait dire, une certaine dégénérescence se font paraître. La multiplication de l'immoralité, des crimes, de la débauche, de l'impiété sous toutes ses formes, ça entraîne une société qui marche de moins en moins bien, et on est bien placé pour le savoir. Et donc, eh bien, c'est ce qui a eu lieu d'une certaine façon. Dieu a su le temps qui était le bon temps pour l'incarnation, pour montrer aux hommes les conséquences fâcheuses et à long terme du péché. Et n'oublions pas que dans cette incarnation, qui est le point de départ de la venue donc, du Christ, bien sûr, sur cette terre, eh bien, il y a avant tout, même si on dit toujours notre Seigneur, le Verbe s'est fait chair pour nous sauver, c'est bien sûr vrai, et c'est une vérité de foi, mais il y a aussi une volonté de rendre justice au Père, rendre justice à Dieu. Car dans le péché originel, il y a une forte injustice, il y a une injustice infinie contre Dieu. Et cela constitue un grave désordre qui nécessitait une réparation infinie. Et vous le savez sans doute, il y avait une nécessité que cette réparation soit faite par quelqu'un de même nature que celui qui a péché, celui qui est à l'origine du désastre, c'est-à-dire un être humain. Mais comme ce désastre était infini d'une certaine façon, puisqu'il y avait offense contre une personne infinie, contre Dieu, eh bien, seul un Dieu pouvait réparer à égalité et en justice ce désastre, cette offense infinie. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette convenance de l'incarnation du Fils de Dieu, de la deuxième personne de la Sainte Trinité, un véritable Dieu lui-même qui va pouvoir donner cette infinité de réparation, et puis un homme pour qu'on ne dise pas, ben, ce n'est pas un homme qui a réparé, donc là, finalement il y a eu une espèce d'annulation de dette, mais il n'y a pas eu réparation en toute justice, puisque celui qui avait péché n'a pas réparé, si jamais ce n'était pas un homme. Alors, cette convenance de l'incarnation nous montre bien, eh bien la direction que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour réparer avant tout cette offense qui a été faite contre son Père. Et bien sûr, en contrepartie, en conséquence directe, cela va nous procurer notre salut. Mais n'oublions pas cette première dimension de justice envers le Père. Donc Jésus, c'est celui qui sauve, c'est Dieu qui sauve, c'est le sens de ce nom, Jésus. Et il y a eu tout un temps pour préparer sa venue. Ce temps, Dieu a permis que, c'est tellement un cadeau immense que Dieu faisait, qu'il a voulu que les hommes, les générations, se préparent à ce don extraordinaire de la miséricorde du Père. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, si le Sauveur était venu tout de suite après la faute, on se serait dit, mais finalement, c'était un dû, il y avait comme un dû de ce salut, et on n'en aurait pas vu la nécessité. Eh bien, ce sont des milliers d'années durant lesquelles il faudra attendre ce salut, ce Sauveur, et Dieu ne va pas laisser un grand noir qui aurait peut-être amené le désespoir complet des générations passées. Il a tout de suite donné l'espérance, vous le savez, en parlant à Adam et Ève et en annonçant le salut par la femme dont la descendance écrasera la tête du démon. Il s'adresse au démon en lui disant qu'il est vaincu d'avance. Et cela, bien sûr, Adam et Ève le savaient, l'avaient entendu, en tout cas, on a été mis au courant. Et donc, l'espérance rejaillit tout de suite après la faute. C'est pour nous une grande leçon. Quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos gâchis, nos désastres personnels, eh bien, Dieu nous promet, nous donne son Sauveur. Et ce Sauveur, ce n'est pas simplement un Sauveur comme ça, un petit peu évanescent, un petit peu nébuleux. Ce Sauveur, il est pour nous, ici, maintenant, en 2003, nous avons notre Sauveur qui est pour nous et qui vient restaurer n'importe quel désastre dont nous serions l'auteur. Tout au long des générations qui ont précédé l'incarnation, Dieu a fait connaître celui qui allait venir sur cette terre. Et cette connaissance se fait par des figures, on les appelle comme ça, des figures messianiques. Ce sont des hommes, ou ce sont même des choses, mais surtout des hommes, qui vont éclairer peu à peu les générations successives qui se transmettront les informations historiquement et par l'écriture sainte, bien sûr, et oralement, par la tradition au sens large, de qui sera ce sauveur? Comment sera-t-il? Que fera-t-il? Comment le reconnaîtrons-nous quand il sera là? Et en fait aussi, quelle est la diversité de ces richesses? Et rapidement, je voudrais vous donner ces principales figures que vous connaissez bien. La moindre histoire sainte nous le signale et nous le montre. Il y a bien sûr Adam lui-même. Adam a cette particularité qu'il est l'auteur de la déchéance et en même temps l'image de la rédemption. Image de la rédemption au sens où il est roi de l'univers, il est roi de la création, c'est lui qui a en lui la richesse totale de la création et de tous les hommes à venir. Il en est le dépositaire, je le disais tout à l'heure. Et bien sûr, il va tout gâcher, il va tout perdre. Mais dans cette possession, dans cette royauté, dans cette possession de tout un héritage pour la suite de l'humanité, il est bien sûr la figure de notre Seigneur qui, lui, sera le roi de l'univers et le roi dans la sainteté, le chef de la sainteté, la tête de l'Église et de tous ceux qui seront sauvés. Il a en lui, par sa divinité, donc par l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union de la nature humaine et de la nature divine, il possède pour tous et à jamais les richesses de tous. Et lui, bien sûr, ne les perdra pas. Et il en est la source. Adam, donc, figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques autres encore, Abel, le fils d'Adam et Ève, qui est pasteur de brebis. Ce n'est pas un hasard, c'est bien sûr un signe profond, une annonce de notre Seigneur, qui est le bon pasteur, qui sera le bon pasteur. Et son sacrifice est agréable aux yeux de Dieu, comme le sacrifice de notre Seigneur sera bien sûr agréable à son père. Et il va mourir à cause de cela. Son frère Caïn, qui va justement par jalousie, lui qui offrait le fruit de son travail et de ses champs, eh bien, sera jaloux et mettra à mort ce frère, et qui sera, notre Seigneur, sera lui aussi mis à mort par ses frères, par les Juifs. Noé est le juste. Noé, c'est celui qui va sauver l'humanité du déluge avec une arche hors de laquelle il n'y aura pas de salut, de même que l'Église. Il n'y a pas de salut hors de l'Église catholique. Eh bien, notre Seigneur était préparé par ce Noé. Noé qui va regrouper sa famille, ils seront 8 à être sauvés, et il est aussi ce chef d'une humanité régénérée. C'est vrai que tous les autres ayant disparu, l'humanité dont nous faisons partie, nous sommes tous descendants de Noé et de sa famille. C'est chronologiquement un repère connaissable pour nous. Noé, bien sûr, qui va, comme notre Seigneur, bien remplir la terre une nouvelle fois, mais cette fois d'une humanité nouvelle, on pourrait dire régénérée, même si ce n'est qu'à d'un point de vue naturel pour Noé. Nous avons, bien sûr, Melchisédek, ce prêtre venu de nulle part, enfin dont l'ascendance est inconnue, qui offrira le pain et le vin à la suite d'une guerre victorieuse d'Abraham. Nous avons Abraham, bien entendu, le père du peuple de Dieu, comme notre Seigneur est le père de toute l'humanité. Donc les figures certaines se recoupent, hein, ça n'est pas impossible. Nous avons Isaac, le fils d'Abraham, qui va être offert en sacrifice et qui va porter jusqu'au haut de la montagne le bois de son sacrifice. Isaac, lui-même, comme notre Seigneur, donc qui va monter, lui, au calvaire. Nous avons Jacob, nous avons Joseph, fils de Jacob, qui va être vendu par ses frères et qui va être vendu, atterrir, si on peut dire, en Égypte, où il deviendra roi, vice-roi, en tout cas, d'Égypte. Et il va accueillir toute sa famille à l'occasion de sécheresse et de famine en Terre Sainte. Et il va redonner à son peuple eh bien, la vie, parce qu'il aura cette influence sur l'installation donc, du peuple hébreu en Égypte. Il y a beaucoup d'autres figures, je m'arrête là. Il y a celle de Moïse quand même, envoyé de Dieu, qui va délivrer le peuple justement qui était sous l'oppression désormais égyptienne. Il va délivrer sur ordre de Dieu, traverser la mer Rouge, les conduire pendant le désert. Tout ça, c'est bien sûr, ce sont autant de figures de notre Seigneur Jésus-Christ qui délivre dans la mer Rouge, bien c'est le sang de notre Seigneur, qui les fait passer de l'esclavage à la liberté. Mais une liberté qui a besoin encore d'être éprouvée, ce seront les 40 ans dans le désert qui représentent un petit peu notre vie sur Terre. Notre vie, c'est nous sommes baptisés, nous avons traversé la mer Rouge, mais il nous reste encore, avant de gagner la terre promise, eh bien, de souffrir, de peiner, d'avoir faim et soif au sens spirituel du terme. Et puis, je voudrais parler aussi, bien sûr, de ces faits qui annonçaient la venue de notre Seigneur. Ce sang de l'agneau pascal, notamment, qui va être versé justement le jour de la sortie d'Égypte, ce sang, chaque famille devait offrir, enfin sacrifier un agneau, et avec le sang, mettre un taux, la lettre hébraïque, au-dessus de la porte pour que l'ange exterminateur n'extermine pas les premiers-nés de chaque famille des Égyptiens. Eh bien, c'est l'image, bien sûr, de l'agneau divin qu'est le Christ, qui, parce que nous aurons été marqués du sceau, du taux, du baptême, de la croix, c'est presque une forme de sainteté, comme un thé, donc c'est bien la forme de la croix, parce que nous avons été marqués du signe de la croix, c'est-à-dire parce que nous avons été baptisés, parce que nous aurons eu la foi en Jésus-Christ, c'est tout cela qu'il faut tenir, eh bien, nous aurons été épargnés par l'ange exterminateur, c'est-à-dire nous ne mériterons pas la déchéance, la damnation éternelle. Autre figure de notre Seigneur, dans d'autres aspects, la manne pendant le désert, la manne qui est cette nourriture que notre Seigneur nous donne par l'Eucharistie, bien sûr. Alors vous voyez, tout cela, je passais beaucoup de choses, bien entendu, tout cela, c'est l'enseignement de Dieu. Dieu enseigne dans le temps, Dieu prépare les âmes à la venue de son Fils, et il le fait avec sa pédagogie, c'est-à-dire avec cette douceur, mais en même temps, cette lumière de plus en plus forte. Nous voyons de mieux en mieux qui va être et quel va être le Sauveur attendu. Et puis, il arrive ce temps du salut, les prophéties très nombreuses, je les passe parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, l'ont annoncé, l'ont décrit en détail parfois. Prenez les chapitres d'Isaïe sur notamment sa passion, mais pas que sur sa passion, on le connaît bien sa passion parce qu'on la retrouve dans la Semaine Sainte, et donc on relit beaucoup Isaïe, mais Isaïe, il y a aussi le chapitre 7 qui annonce que la Vierge enfantera. Donc, dès l'incarnation est annoncée d'une Vierge. Le roi David, dans toutes ses prophéties, dans tous ses psaumes, et tous les autres, qui annoncent Daniel, qui annonce le temps, c'est quasiment un calendrier que nous avons par Daniel, qui annonce le nombre de semaines d'années, et d'années qu'il est facile de retrouver. Et donc, au temps de notre Seigneur, avant sa naissance, eh bien, les savants de l'Écriture sainte, les docs, les scribes, eh bien, avaient toute raison de comprendre que ça y est, le temps arrivait. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'il y a eu de faux messies. Il y a eu une floraison de faux messies, de gens qui avaient justement lu suffisamment bien les Écritures pour se dire « Pourquoi je tenterai pas ma chance et je gagnerai à être connu ?» Eh bien, ça, c'est arrivé. Alors, pour Dieu, bien sûr, cela s'est fait non pas avec des trompettes, non pas avec une folie orgueilleuse, mais dans l'humilité. C'est l'Annonciation, c'est la crèche, c'est la venue d'un roi et d'un Dieu qui se fait tout petit et qui nous rappelle une chose très importante. C'est que, puisqu'il a voulu naître dans l'obscurité, dans la nuit, eh bien, c'est dans la pauvreté. Dans l'abandon, il n'y avait plus de place à l'hôtellerie, à Bethléem, c'était complet. Eh bien, il a voulu nous montrer dans quel état nous étions. Nous étions dans l'obscurité, nous étions dans les ténèbres du péché. Et il est la lumière qui va justement naître, illuminer ces ténèbres, nous redonner la lumière. Sans la lumière, on ne peut pas avancer, sans la lumière, on ne peut même pas vivre. Regardez tout le monde végétal qui ne vit pas. Sans la lumière, eh bien nous ne sommes pas des végétaux, mais nous avons néanmoins besoin de cette lumière. Nous marchons, au sens spirituel du terme, que si nous sommes éclairés. Il est né dans la pauvreté pour nous montrer que nous étions complètement dépouillés. Nous avions perdu la grâce, nous avions tout perdu, donc, parce que ce n'est pas cette nature qui nous restait, même cette nature était blessée, elle n'était pas détruite. Attention, Luther a voulu croire que la nature était détruite, donc il n'y avait plus possibilité de faire quoi que ce soit de bien. Ce n'est pas cela. Mais elle était blessée, et cette blessure était suffisante pour nous empêcher, nous fermer la porte du ciel, mais aussi pour nous empêcher même de vivre correctement et suffisamment bien longtemps, même sans la grâce. Il a voulu nous montrer que nous étions pauvres et qu'il serait cette richesse qu'il apportait, la richesse de la vie divine. Voilà un petit peu les prémices, ce que Dieu a voulu nous annoncer, ce que Dieu a voulu nous dire pour chacun de nous. Mais cela n'a pas suffi, il a voulu que nous recevions ce Christ. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Relisez le prologue de Saint Jean, dont je tire bien sûr ces versets, c'est pour cela que l'Église l'a très sagement mis à toutes les messes. Nous avons ne nous habituons pas à ce dernier évangile qui est souvent un petit peu bâclé, qui est peut-être même dit trop rapidement par les prêtres eux-mêmes, ça peut arriver. C'est un trésor de vie spirituelle, c'est tout le résumé de l'incarnation et aussi de notre vie. Ce nécessaire accueil que nous devons faire à cette lumière dans nos ténèbres, voilà ce que nous devons nous rappeler lorsque nous sortons de la messe. Nous devons nous rappeler que Dieu est venu parmi nous si nous avons communié et que nous devons vivre de cette lumière et éclairer donc le monde de cette lumière. Donc Dieu est venu parmi nous et il veut être accueilli et il sera accueilli pour nous par la foi. C'est notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, au fait qu'il est vrai Dieu et vrai homme, et qu'il est l'auteur de notre salut, qui va nous communiquer ce salut. On pourrait lire énormément de Saint Jean, tout l'évangile de Saint Jean. Je voudrais vous citer quelques versets simplement. C'est le chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà un résumé de l'incarnation. Voilà aussi un résumé de notre réponse à l'incarnation. Afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous ne croyons pas en notre Seigneur Jésus-Christ, cette incarnation, ce salut a bien eu lieu, mais nous n'en profiterons pas. Attention, il n'y a pas de rédemption universelle au sens moderne du terme que l'on entend et qui est répandu actuellement par les théologiens actuels, de dire que finalement l'incarnation a sauvé l'humanité et que, en tant que telle, l'humanité est sauvée et que donc tout homme qui naît homme, tout être qui est homme, eh bien, est déjà sauvé par l'incarnation qui a eu lieu en l'an, pas en l'an zéro, paraît-il, puisqu'on a 3-4 années de décalage du calendrier. Verset 18, toujours du chapitre 3, « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Voilà la condition de ce salut, de l'accueil, de cette réception du salut que nous devons avoir de notre part, parce que de la part de Dieu, bien, c'est le don de son Fils, et c'est le cadeau le plus grand qui nous est fait. Mais de notre part, il faut cet accueil, cette réception par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui sauve, bien sûr, mais il sauve ceux qui accueillent son salut. Alors bien sûr, c'est tout le mystère de la grâce, c'est tout le mystère de notre liberté, c'est tout le mystère de ce don que Dieu fait de sauver une âme qui est perdue. Et là, il y a une question qu'il faut aborder rapidement. C'est la question de justice et d'injustice. Souvent, et puisque vous êtes dans une retraite, forcément, la question peut venir, et vous est certainement venue à l'esprit à un moment ou à un autre dans votre vie, pourquoi moi ? pourquoi suis-je baptisé? Pourquoi est-ce que j'ai la possibilité de me sanctifier régulièrement? Pourquoi je connais la tradition? Pourquoi je peux me faire une retraite? Etc. etc. Alors que tant de personnes autour de moi n'ont pas cette chance, n'ont pas cette grâce, n'ont pas cette possibilité. Pourquoi je suis né dans un pays qui a été, on pourrait dire, béni de Dieu, même s'il n'est pas fidèle à sa vocation, il est béni de Dieu. Pourquoi, etc. Ces questions sont sans réponse et il ne faut pas se scruter Dieu dans sa réponse. Il ne faut pas se dire, mais ça on le fera pas, c'est bien sûr parce que je valais le coup. C'est parce que j'avais toutes les qualités requises pour recevoir tous les bienfaits que le bon Dieu m'a donnés. Mais si on élimine cette piste, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Or, comme si nous avons ces grâces, ça n'est pas parce que nous valions le coup, ça n'est pas parce que nous avions justement des qualités extraordinaires qui ont fait, mais si nous avons des qualités et nous en avons, ne le nions pas, permet de faire du bien, nous donne des qualités au départ. Ce qu'on dit quand il y a un don, hein, des dons innés, des qualités innées, c'est bon, c'est bien Dieu qui est intervenu. Eh bien, tout cela ne doit pas nous faire oublier que nous avons cette nécessaire réponse à donner à Dieu, une réponse libre, et ne pas nous dire c'est injuste si la personne qui est à côté de moi, eh bien, n'est pas recouverte de ses dons. À cette question, pourquoi moi et pas mon voisin, ma voisine, eh bien, nous ne devons pas chercher. Un rappel, et je termine sur cette petite parenthèse, Dieu n'était absolument pas tenu au salut. Donc, en justice, strictement, la perfection qui s'appelle la justice en Dieu, qui est Dieu quant au fait de rendre à chacun ce qui lui est dû, eh bien, ne nous devait que le châtiment éternel, puisque la faute était éternelle, la faute avait une valeur, pardon, infinie, donc méritait un châtiment éternel, donc il ne nous était dû que l'enfer. Et le salut est l'œuvre de sa miséricorde qui viendra sans supprimer la justice, attention, sans supprimer la justice, c'est-à-dire en répondant parfaitement à la justice, Dieu va, par son amour, substituer, non pas se substituer à nous qui étions pécheurs. Et il va mettre son Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ vient répondre à la fois à la justice et à la miséricorde. Mais la réception de cette miséricorde, de fait, même si elle était prévue pour tous, et elle a été méritée pour tous les hommes de tous les temps et jusqu'à la fin du monde, de fait, nous le savons bien, certains y ont échappé et y échapperont. Et ça, c'est un mystère, c'est le mystère du mal. Mais ce mystère ne doit pas nous faire perdre de vue que le fait qu'il ait donné le salut à l'un et que l'autre l'ait refusé, et il y a peut-être eu moins de grâce, moins de chance, moins de foi où Dieu a sollicité cette âme, eh bien, ça n'est pas un dû de la part de celui qui a reçu moins. C'est très important. C'est souvent la cause de troubles dans les âmes, de se dire, mais en fait, telle personne au fond d'une savane, d'une brousse, n'a reçu qu'une seule fois une illumination, peut-être pour se convertir, pour connaître le vrai Dieu. Et puis nous, on en a reçu des tonnes et des tonnes et des tas de fois. Et puis, on a l'impression que c'est comme des droits pour nous, et c'est comme une injustice pour celui qui n'a reçu qu'une fois. Attention, il n'y a pas d'injustice en Dieu, il n'y avait, d'un point de vue de la justice, que le châtiment éternel. Donc cette miséricorde, lorsqu'elle se distribue de façon apparemment inégale au travers les hommes, c'est le secret de Dieu. Et pour nous qui avons reçu plus, objectivement, et ça ce serait mentir que de dire l'inverse, eh bien nous avons le devoir et, on pourra dire, un stimulant supplémentaire pour remercier d'abord, et pour être moins indigne de ces dons multiples qui nous ont été faits. Voilà donc Dieu qui vient nous sauver par l'incarnation, Dieu qui nous sauve dans la passion, c'est bien sûr le cœur et le sommet de sa vie publique. Alors vous le savez, on divise souvent la vie de notre Seigneur en quatre parties, sa vie cachée, sa vie publique, sa vie souffrante et sa vie glorieuse. Donc sa vie cachée, c'est jusqu'à 30 ans, sa vie publique de 30 ans jusqu'à sa mort, jusqu'au jeudi saint plus exactement, la vie souffrante du jeudi saint jusqu'à la mort, et la vie glorieuse de la résurrection jusqu'à l'ascension. Eh bien, c'est dans cette vie et dans la foi en les mystères de cette vie que nous recevons le salut qui nous est proposé. Et je n'ai pas le temps de le faire, mais vous pouvez le faire très facilement. Il suffit de lire l'Évangile, de lire notamment, n'hésitez pas à le faire pendant vos temps libres, à lire au moins une passion d'un des quatre Évangiles durant cette retraite. Et c'est donc l'examen de la vie de notre Seigneur, puisqu'il s'est fait connaître, il a habité parmi nous, nous l'avons dit. Donc c'est comme cela qu'il a voulu être connu, et c'est comme cela qu'il a voulu que nous recevions ce message par la foi en sa vie terrestre et en ses œuvres terrestres. Alors, je passe rapidement sur quelques parties de la vie de notre Seigneur pour en tirer une petite nourriture qui pourra peut-être vous servir chaque jour. La nativité, j'en ai parlé, cette pauvreté dans laquelle nous sommes et cet appel de la richesse qu'est Dieu. Nous avons bien sûr la purification qui va suivre, la purification 40 jours après la nativité, où Notre-Dame se présente avec Saint-Joseph au temple pour à la fois, elle, se purifier et offrir et racheter son premier-né comme la loi mosaïque le voulait. Eh bien, nous avons dans cette leçon, une grande leçon encore d'humilité, une leçon d'obéissance, une leçon de pauvreté qui va nourrir toute la vie de notre Seigneur et de Notre-Dame. Ne les séparons pas, où Notre-Dame, alors qu'elle n'était pas tenue à cette purification des femmes qui avaient enfanté, eh bien va le faire quand même. Réfléchissons nous aussi dans ces petites choses qui ne nous semblent pas obligatoires dans notre vie et qui pourtant il suffit de s'y soumettre et l'on imite là aussi notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère et nous sanctifions ce temps, cette petite activité à laquelle nous n'étions pas tenus. Pensons à toutes ces, on pourrait dire, à ces indications que nous pouvons recevoir dans la liturgie, dans les prédications, et qui parfois, on se dit, bon, on n'est pas tenu à tout cela, eh bien, l'obéissance, la simplicité, l'humilité d'obéir à telle ou telle indication religieuse, bien sûr, nous permet d'imiter notre Seigneur dans ce temps de la purification. Et puis très vite, il y a le mystère de la croix. Il y a eu la circoncision, 8 jours après la naissance, bien sûr, déjà le sang versé pour notre salut, mais aussi cette fuite en Égypte à cause du massacre des innocents. N'oublions jamais que suivre notre Seigneur Jésus-Christ entraînera automatiquement une certaine persécution. Alors sans le prendre le mot au sens fort, même si beaucoup de chrétiens l'ont connu au sens fort, il suffit de regarder le XXe siècle, qui est sans doute le siècle le plus persécuteur de l'histoire de l'humanité contre les chrétiens, eh bien nous avons certainement la contradiction, en tout cas, face à nous. Suivre notre Seigneur n'est pas indolore, ne nous laissera pas indemne, parce que notre Seigneur a suivi le chemin de la croix, et il a dû fuir quand il le fallait, pour échapper, bien sûr, au massacre de celui qui ne voulait pas d'un roi. Et il y a encore actuellement des hommes qui ne veulent pas du roi non pas simplement des juifs, mais du roi de la terre, du ciel et de la terre, de notre Seigneur Jésus-Christ, du Christ roi. Et parce qu'ils n'en veulent pas, ils sont prêts aussi à exterminer de façon variable, soit dans les persécutions, on a vu ça le communisme, on voit ça encore avec le communisme. En Chine, il faut savoir qu'actuellement, il y a encore des persécutions de prêtres, de religieuses, et ça n'est pas terminé, malheureusement. Même si ça évolue dans d'autres pays, eh bien, le communisme fait encore des victimes, ne l'oublions pas, trop vite, et d'autres persécutions antichrétiennes, bien sûr. Eh bien, ça peut se faire de façon beaucoup plus subtile, des persécutions qui ont lieu contre l'enfance, pour détruire les âmes, pour détruire cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ en renouvelant, en inventant une nouvelle religion. Et cela amène le même résultat, c'est-à-dire l'abandon de la foi, et dans l'abandon de la foi, l'abandon de notre Seigneur Jésus-Christ et l'abandon de son royaume. On empêche la venue, l'extension du royaume de Dieu que nous demandons dans notre Père. Voilà cette fuite en Égypte et ce massacre des innocents. Puis la vie cachée à Nazareth, tout au long de sa vie cachée. N'oublions pas quand même dans cette vie de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous aurons à méditer tout à l'heure, il y a 30 ans de vie cachée et 3 ans de vie publique. Cette proportion fait à peu près du 90%, si je ne me trompe, 90% de notre vie tournée vers Dieu, vers le service de Dieu, 33 ans tournée, on pourrait dire, vers quelque chose de plus extérieur, mais qui n'échappe pas non plus à ce service du Père. Car que fait notre Seigneur, et je viens à cette vie publique, dans sa vie publique, il va se soumettre à la loi du baptême, c'est son baptême. Il va commencer par une retraite de 40 jours, c'est le désert, au bout de laquelle, au bout de la période, il a ses tentations, ce combat des tentations, et puis après, c'est le choix des apôtres, c'est la prédication de l'évangile, de la bonne nouvelle, donc c'est ces guérisons, ces miracles, cette prédication qui accompagnait le miracle, qui annonce le royaume de Dieu. Ne l'oublions pas pour nous. Notre vie, quelles que soient nos activités, quelle que soit notre profession, que vous soyez mère de famille, que vous soyez femme active, professionnelle, ou les deux, peu importe, vous devez vous dire que l'essentiel de votre vie est la vie cachée. Non pas que vous soyez caché, mais que votre vie soit tournée avant tout vers notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que vers notre Seigneur Jésus-Christ, tournez donc vers le Père du ciel. Parce que plus vous êtes unis à notre Seigneur Jésus-Christ, et on pourrait tout résumer là, eh bien plus vous accomplissez la volonté de Dieu, plus vous êtes conforme au plan de sainteté que Dieu a sur vous. Si vous êtes en train de faire une retraite actuellement, c'est parce que Dieu veut que vous soyez sainte. Et cette sainteté, elle a besoin de moyens concrets, de sacrements, de prédications, de temps de prière, de pénitence, qui vous aideront à vous rapprocher toujours plus de cette vie de Jésus-Christ dans votre âme. Ne l'oublions pas, et je fais le lien avec cette vie glorieuse de notre Seigneur, j'ai passé la passion, mais vous le méditerez tout spécialement, cette vie glorieuse se termine par l'annonce de l'envoi du Saint-Esprit. Je vous enverrai un autre paraclet. Cet envoi du paraclet, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Mais cet Esprit de Dieu, c'est l'Esprit à la fois du Fils, c'est l'Esprit du Père. Mais donc notre Seigneur Jésus-Christ se prolonge dans cet envoi du Saint-Esprit qu'il fera tout spécialement le jour de la Pentecôte. Mais nous sommes toujours, notre vie est toujours et doit toujours être nourrie de cet envoi du Saint-Esprit. Et lorsque nous méditons sur notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous méditons sur sa vie cachée, sur sa vie souffrante, sur sa vie glorieuse, n'oublions pas qu'il est toujours en nous par son Esprit. Ne divisons pas la Sainte Trinité, ne la coupons pas en trois. Et n'oublions pas que notre vie sur cette terre doit être une vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de l'Esprit-Saint en nous. Ce doit être une vie surnaturelle, c'est-à-dire qui dépasse notre nature, mais qui nous conduira à notre fin surnaturelle. Vous avez dû méditer d'une façon ou d'une autre depuis hier. Eh bien, c'est dans ce plan que nécessairement nous avons besoin de recevoir l'Esprit de Dieu, de recevoir l'Esprit de Jésus-Christ. Ne pensons pas que notre vie, je reviens à ce que je disais au début, puisse échapper à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir, dans cette retraite, le souci d'être, on pourrait dire, prisonnier de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait une façon, un fil conducteur, si vous voulez, de vivre cette retraite, ce pourrait être cela. Vivre de Jésus-Christ, c'est un petit peu être prisonnier de Jésus-Christ. Saint Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour arriver à cette phrase, Saint Paul y était arrivé. Il ne l'aurait pas dit, il n'aurait jamais menti. Donc c'était vraiment une vie surnaturelle de Jésus-Christ en Jésus-Christ. Eh bien, ça doit être notre programme de vie. Et cette retraite devrait nous permettre de mieux, de pouvoir dire, sans mentir, en tout cas de nous en approcher, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Et cette vie de Jésus en moi, c'est la vie de l'Esprit-Saint, c'est la vie de l'Esprit de Dieu, et elle se puisera dans cette contemplation de la vie de notre Seigneur. Et c'est pour cela qu'il faut connaître la vie de Jésus. Parce que nous ne pouvons aimer que quelqu'un que l'on connaît. Et il faut prendre comme résolution de peut-être mieux connaître l'Évangile, lire l'Évangile, de méditer l'Évangile. Dans vos sujets de méditation, si vous faites déjà oraison, eh bien, l'Évangile du jour devrait suffire. Même si ce n'est pas une obligation, bien entendu. Dépendre de Jésus-Christ, être prisonnier de Jésus, vouloir que Jésus soit l'inspirateur de tous les instants de ma vie. Et ça n'est pas facile, c'est l'oraison qui vous y aidera, c'est la lecture de l'Évangile, c'est la vie des sacrements. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ, s'il exige de nous une foi en Dieu pour nous sauver, il a donné des moyens de prolonger son action, et il les a donnés à l'Église. Ce sont les sacrements, ce sont bien sûr les prêtres qui donnent ces sacrements, qui prêchent Jésus-Christ, l'Évangile. Alors c'est tout cela qui doit vous animer sur cette belle méditation que doit être celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et on pourrait faire une méditation par jour sur notre Seigneur Jésus-Christ, ça ne serait pas trop. Il faut que, de toute façon, toute méditation est une méditation de Jésus-Christ. Vous allez faire d'autres méditations dans le cours de la retraite, mais si vous réfléchissez bien, vous allez toujours revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ayez bien conscience de ce nécessaire abandon à Jésus. Et si vous le connaissez mieux, alors vous pourrez mieux le suivre. Jésus est un modèle, mais pas un modèle comme on a... notre jeunesse, telle personne qui nous a servi de modèle, qui nous a marqué dans sa vie, dans ses œuvres. Non, Jésus-Christ, non seulement nous marque dans sa vie, dans ses œuvres, bien entendu, mais il fait bien plus que cela. Il entre en nous. Il veut vivre de nous. Et c'est cela qui constitue pour nous notre espérance. Notre amour de Dieu sera possible parce que nous serons greffés, l'image est de saint Paul, à notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous pourrons vivre véritablement de cette religion que notre Seigneur accomplit constamment pour son Père du ciel. Alors nous allons méditer quelques instants à la chapelle, mais n'oublions pas cela, si nous voulons que notre Seigneur soit source de notre salut, si nous sommes persuadés que Jésus est modèle de notre vie, eh bien cela se fait dans une intimité avec Jésus. Ça ne vient pas comme ça. Ça n'est pas le fait simplement d'aller à la messe le dimanche qui permet de rentrer dans cette intimité. Donc ayez ce souci de vivre chacun de vos instants à la lumière de notre Seigneur, de vivre dans ce désir de ce que je disais, comme je prenais comme image la prison, mais une prison qui est douce, c'est d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et en étant unis à lui, alors nous pourrons prétendre bien le suivre et le retrouver là où il est, donc au ciel. Alors, on va à la chapelle et médite quelques instants. C'est aujourd'hui, vous le savez, la fête de Sainte Marie-Madeleine. C'est l'occasion peut-être de bien préparer votre confession de retraite. Vous avez l'entière liberté de faire une confession comme vous en faites régulièrement, ou bien de faire une confession générale qui, depuis la dernière confession générale, par exemple. Alors ce matin, Nous allons voir dans le prolongement de la méditation d'hier sur notre Seigneur Jésus-Christ, la méditation sur la grâce. Nous savons que même si Dieu a créé les hommes dans une nature précise, dans un état de nature qui est de nature créée, donc, cet état n'incluait pas en soi, nous l'avons dit hier, la vie divine. L'état de nature humaine n'implique pas le partage de la vie divine. Et pourtant, nous le savons par la révélation, Dieu a donné gratuitement cette possibilité aux premiers hommes, Adam et Ève, d'être associés à cette vie divine. C'est le don de la grâce, c'est le don de la justice originelle qui fait que Adam et Ève se retrouvent en amitié avec Dieu, se retrouvent à partager de façon mystérieuse, invisible, mais véritable, la vie de Dieu. C'est donc l'état de grâce, c'est l'état de vie surnaturelle, c'est-à-dire qui dépasse totalement les capacités de la nature humaine. Et en même temps, tout en la dépassant, elle ne la contredit pas, elle ne l'annule pas. Elle, au contraire, elle la sous-entend, elle la suppose. C'est-à-dire que c'est sur cette nature que se greffe cette vie divine. Et la vie de la grâce, ça n'est pas une vie qui détruit ou qui annule, qui abolit notre vie naturelle, mais elle la dilate, elle la rend capable d'autre chose, elle la rend capable d'une finalité qui l'a dépassé à l'origine. La nature humaine devient par la grâce capable d'une finalité surnaturelle. Et cette finalité surnaturelle, c'est Dieu. Dieu est l'objectif, si vous voulez, et en même temps la condition nécessaire de cette vie surnaturelle. Alors c'est très mystérieux, c'est certainement, même si nous parlons d'état de grâce, de péché qui détruit la grâce, etc. Donc ce sont des termes que nous employons très fréquemment et que, depuis le catéchisme de l'enfance ou après, eh bien, nous avons entendu et sur lesquels nous avons réfléchi souvent. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est très mystérieux, ce don, dans une nature créée, dans une nature limitée, d'une participation de la vie de Dieu, de la vie de l'incréé, de la vie de l'infini qui est Dieu. Dans notre nature humaine, il n'y a pas, il faut le souligner, d'incompatibilité avec cette grâce. Même si la nature humaine n'exige pas la grâce, il n'y a pas d'incompatibilité. Pourquoi ? Eh bien parce que cette nature humaine, elle est faite à l'image de Dieu. Et c'est cette image de Dieu, cette création à l'image de Dieu qui fait que la nature humaine peut recevoir la grâce qui l'élèvera à la vie surnaturelle. Donc cette intelligence et cette volonté qui sont en l'homme et qui sont les caractéristiques de l'image de Dieu, c'est-à-dire cette image, cette conformité à ce qu'est Dieu. Dieu, vous le savez, est intelligence, il est vérité et il est en même temps volonté, il est amour. L'intelligence est en fait pour le vrai, et la volonté est en fait pour le bien. Alors ça, c'est pour nous, nous distinguons, nous avons comme puissance dans notre âme une intelligence qui cherche le vrai, une volonté qui cherche à aimer le bien, à se porter vers le bien, qu'elle a vu par l'intelligence. En Dieu, il n'y a pas de division à faire. Dieu est un. Et ça nous est très difficile de le comprendre. Dieu est intelligence, Dieu est vérité, et on peut dire de la même façon et à égalité dans les termes, Dieu est amour, Dieu est le bien. Bon. Eh bien, cette image, cette création à l'image de Dieu fait que nous pouvons recevoir, effectivement, il n'y a pas d'incompatibilité, une surélévation de notre intelligence, ce sera par la foi, par la grâce qui va illuminer notre intelligence, ce sera donc la foi, la vertu de foi qui va venir porter notre intelligence à une hauteur qu'elle n'était pas capable d'avoir, illuminer notre intelligence d'une lumière qu'elle n'était pas capable d'avoir toute seule, et donc connaître des vérités qu'elle n'était pas capable de connaître toute seule, sévérité, ce sera Dieu et tout ce qui touche Dieu. Donc c'est la foi. Et puis, pour ce qui est de notre volonté, la grâce va lui donner une force qu'elle n'aurait pas eue toute seule, qui va la porter vers un bien qu'elle n'aurait pas pu atteindre toute seule. Cette force, ce sera la grâce qui va toucher notre volonté, alors soit dans l'espérance, soit dans la charité, pour ce qui est des vertus théologales. Et ce bien que notre âme va pouvoir atteindre, ce bien surnaturel que notre âme va pouvoir atteindre alors qu'elle n'aurait pas pu l'atteindre toute seule, c'est Dieu lui-même, et ce sera dans la charité. Donc on le voit que les vertus théologales que nous connaissons, foi, espérance et charité, ont ceci de particulier qu'elles viennent de Dieu, elles touchent soit notre intelligence, soit notre volonté, la foi éclairant l'intelligence, l'espérance et la charité fortifiant notre volonté. Alors, je vais vite, bien sûr, mais ce sont de grandes vérités qui pourraient être méditées chacune séparément, et il faut le faire. C'est l'occasion de... Vous savez, souvent, on cherche des sujets de méditation, parce qu'on finit par avoir épuisé tous les ouvrages qu'on avait prévu de lire, et puis on oublie de revenir à des choses simples. Eh bien, il faut revenir à ces choses simples, parce qu'elles ne sont pas si simples pour nous, elles sont simples en Dieu, mais nous ne sommes pas simples, et donc nous avons du mal à retrouver la simplicité de ces grandes vérités. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que l'espérance? Qu'est-ce que la charité? Qu'est-ce que cette vie de Dieu en nous? Donc les vertus théologales, nous le voyons bien, viennent de Dieu, puisque c'est de l'ordre de la grâce. Elles ont Dieu pour objet, puisque la foi nous fait connaître Dieu. L'espérance nous fait nous appuyer sur Dieu. Le secours vient de Dieu, et nous le savons. Et nous avons cette certitude que le secours vient de Dieu, et c'est cette espérance qui nous fait avancer vers quoi? Vers Dieu, objet de notre amour, objet donc de charité. Et dans cet amour de charité, il y a plus que avoir obtenu, avoir atteint le but que nous cherchions. Il y a plus que cela, il y a un partage de vie divine, et ça c'est essentiel. La charité, c'est la plus grande des vertus, c'est la vertu suprême, c'est la plus grande disposition qui puisse être en nous, puisque c'est ce partage, cette intimité qui est entre Dieu et une âme. Et cette intimité ne supprime pas l'autre dimension. Nous le savons, en étant unis à Dieu, nous sommes unis également à tous ceux qui sont unis à Dieu. Et cette charité fraternelle, comme on dit, eh bien, nous fait donc être unis mystérieusement, surnaturellement, à toutes les âmes qui sont unies à notre Seigneur Jésus-Christ, car, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit hier d'une certaine façon, c'est bien sûr en notre Seigneur Jésus-Christ que tout cela est rendu possible. C'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu restaurer ce que le péché originel avait brisé, et c'est en notre Seigneur Jésus-Christ que toute cette vie surnaturelle est possible. Alors, revenons un petit peu plus en détail sur cette grâce. Nous l'avons dit, notre nature humaine n'était pas incompatible avec la vie de la grâce, contrairement par exemple à la vie d'un animal ou d'un végétal, qui n'ont pas cette image de Dieu en eux. Donc il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de volonté, il y a une forme de désir chez les animaux, mais il n'y a pas cette intelligence et cette volonté, donc cette liberté propre aux hommes, mais aux anges. Mais pour ce qui est des animaux, il ne peut pas y avoir un animal dans la grâce, parce qu'il n'y a pas de quoi porter cette grâce. Il y a incompatibilité entre la grâce et l'animal ou le végétal. Donc chez nous, pas d'incompatibilité. Et en même temps, puisque Dieu nous invite à une fin surnaturelle, c'est-à-dire à être unis en permanence avec lui, et que nous n'avons pas les moyens d'atteindre cette fin, c'est forcément lui qui va nous donner le moyen d'atteindre la fin. Si vous demandez à quelqu'un d'accomplir une action difficile, si je vous demande d'aller sur la Lune, il va falloir que, puisque si je vous l'ordonne ou si je vous y invite fortement, il ne va pas simplement falloir que je vous y invite fortement, il va falloir que je vous donne les moyens d'atteindre. Et vos propres moyens seront insuffisants. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose, simplement c'est lui qui est la fin. Et il sait très bien, il nous connaît, c'est lui qui nous a créés, que nous sommes incapables d'atteindre, de l'atteindre, si lui-même ne nous donne pas de quoi l'atteindre. Eh bien, ce par quoi il nous permet de l'atteindre, c'est la grâce. La grâce est cette participation, ce don gratuit, surnaturel, puisque un moyen doit être proportionné à la fin qu'on se donne. Je reprends l'exemple de la Lune, il vous faut, ça ne sert à rien de prendre son élan et de sauter très haut. Vous allez devoir obligatoirement prendre une fusée, quelque chose qui soit apte à atteindre cet objectif. Eh bien, dans la vie surnaturelle, il en est de même. Ce moyen est nécessairement proportionné à cette fin. Et de même nature. Or, cette nature de Dieu, entre guillemets, c'est le surnaturel. Donc, le moyen pour atteindre cette fin qui est surnaturelle doit être nécessairement surnaturel. Donc, la grâce est bien quelque chose de surnaturel. Et ça n'est pas une... C'est pas une échelle, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. C'est véritablement un don qui se fait à l'intérieur de nous et qui va transformer ce qui doit être transformé pour atteindre Dieu surnaturel. Or, qu'est-ce qui doit être transformé, on l'a dit, notre intelligence et notre volonté. Donc, l'essence, et pas que cela d'ailleurs, tout notre être, toute notre âme, tout notre être, y compris notre corps, est trempé, on pourrait dire, de la grâce de Dieu, et à cette condition pourra atteindre Dieu, pourra vivre de Dieu. Alors tout cela est difficile à saisir parce que nous vivons, nous comprenons mieux les choses sensibles. Or la grâce n'est pas sensible. Elle n'est pas du tout de l'ordre de la sensibilité. La sensibilité, c'est de l'ordre des sens. Donc c'est de la partie physique de notre être. Nous avons un corps et une âme. Mais le sensible est de l'ordre du corps. Or, la grâce ne touche pas premièrement le corps. Elle peut avoir un effet sur le corps, mais c'est un effet en conséquence, comme si vous voulez, en redondance. Il y a une espèce de déco sur notre corps, c'est sûr. On le voit d'ailleurs, une âme en état de grâce est toujours plus paisible, plus détendue. À la fin d'une retraite, on est bien généralement physiquement même. Et pourtant, ça n'est pas... Le premier effet de la grâce de nous détendre, de nous rendre plus meilleurs dans notre peau, si vous voulez. Donc, mais la grâce touche tout notre être. Donc elle n'exclut pas le corps, mais tout notre être, toute notre âme d'abord. Et toutes nos facultés sont illuminées ou fortifiées, selon les cas, de la grâce de Dieu. Donc c'est notre intelligence, c'est notre volonté, c'est notre imagination, c'est notre mémoire, c'est toutes nos facultés, y compris bien sûr, après, notre sensibilité, mais dans un second temps, pour aider. Donc la grâce de Dieu va, je disais tout à l'heure, tremper, c'est vrai, va nous transformer cet être, ça ne va pas le supprimer, encore une fois, ça va... Je prends l'image d'une qui n'est pas belle, mais qui est très efficace. Je m'en sers avec mes élèves et ça marche toujours, surtout quand on a le matériel qu'il faut. Toujours une éponge pour effacer le tableau. Et je leur dis, la grâce, c'est un petit peu comme l'éponge. Vous avez une éponge qui est sèche. Alors l'éponge sèche, qu'est-ce qu'on fait avec ? Bon, on peut faire un certain nombre de choses avec une éponge sèche. On peut même essayer d'effacer le tableau, ça marche un tout petit peu. Et pourtant... on se rend compte que la capacité de cette éponge est très limitée, très très limitée. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on la trempe dans l'eau, toutes les fibres de l'éponge se retrouvent gonflées, dilatées, et, miracle, le tableau s'efface merveilleusement. Alors, l'image n'est pas belle, mais elle peut faire comprendre assez bien ce que fait la grâce. La grâce va transformer tout notre être, et elle va le rendre capable de choses que toute seule, elle n'était pas capable de faire. Alors évidemment, on va limiter la comparaison là, parce que sinon, on gâcherait un petit peu la beauté de la vie de la grâce. Mais gardez l'image, si vous voulez, pour retenir c'est tout l'être, tout notre être, qui se retrouve immergé dans la vie de Dieu et rendu capable d'atteindre cette vie de Dieu. Et cette vie permanente, ce qu'on appelle l'état de grâce, implique une idée de permanence dans notre vie. C'est-à-dire que c'est constamment que nous sommes unis à Dieu. Constamment, sauf si le péché mortel, le péché grave, vient briser cette union, vient briser cette amitié avec Dieu. N'oublions pas que c'est la grâce qui nous permet de vivre en charité avec Dieu, c'est-à-dire de vivre en amitié qui est un partage d'amour avec Dieu et de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il est. Alors, n'oublions pas cela pour, bien sûr, bien penser à ce qu'est la vie de la grâce, à la préserver. Et rentrons un petit peu plus dans les divisions que les théologiens font généralement sur la grâce pour bien en comprendre les différents aspects. On peut distinguer dans la grâce d'abord deux grandes sortes de grâces qu'il ne faut surtout pas confondre, et je vais en parler clairement pour ne pas tomber dans les erreurs qui sont actuelles. Il y a ce qu'on appelle, alors les termes sont un petit peu techniques, mais c'est pas grave, il suffit de les traduire, il y a ce qu'on appelle les grâces gratis datées, c'est-à-dire des grâces données gratuitement. Données gratuitement. Bon, ça c'est un premier genre de grâce. Qu'est-ce que c'est? On l'appelle plus couramment les charismes. Donc les charismes, ce sont des dons qui viennent de Dieu et qui permettent à certaines personnes de faire des choses que la nature humaine, strictement, ne peut pas faire. Mais, alors c'est par exemple de guérir des personnes, c'est par exemple de parler en des langues qui ne sont pas connues, qu'elle n'a pas apprises, cette personne. Tout cela est arrivé, on le voit dans saint Paul qui en explique les détails. Ça peut être de prophétiser, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est, naturellement, l'homme ne peut pas le faire, et pourtant, il reçoit de la part de Dieu ce genre de don. Alors attention, parce que, quels que soient ces charismes ne touchent pas la vie d'union de cette personne qui possède le charisme. Attention. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien avoir un ou plusieurs charismes, et strictement ne pas être en état de grâce, c'est-à-dire ne pas être dans cette amitié avec Dieu. Alors Dieu n'est pas tenu de donner en permanence ses charismes, ça peut être aussi un don provisoire, enfin passager, mais comprenons bien qu'il n'y a pas de corrélation entre la vie d'union, la vie de l'âme de cette personne qui a le charisme, et son charisme. Le charisme est complètement indépendant de la vie d'union à Dieu. Ce qui fait qu'il ne faut pas chercher à courir après les charismes, et il ne faut pas chercher à en profiter spécialement. Enfin, si on peut en profiter, profitons-en, bien sûr. Si Dieu les a fait, c'est bien pour qu'on en s'en serve. Mais ça n'est pas cela qui nous fera aller au ciel. C'est ça que je veux dire. Le charisme n'est pas un moyen d'aller au ciel. Alors à quoi il sert, puisque Dieu l'a fait, il doit bien quand même servir à quelque chose. Eh bien, il sert à l'amélioration du bien commun. Il peut servir à la guérison d'une personne, il peut servir, donc. Mais ça n'est pas de l'ordre de la vie sanctifiante, ça n'est pas de l'ordre de la vie de la grâce, de la vie d'union à Dieu. Or, notre but sur cette terre, c'est la vie d'union à Dieu. Donc il faut bien chercher là où elle est, cette source de vie d'union à Dieu, ça n'est pas dans les charismes. Et là, vous avez compris que je fais allusion à tout ce qui est mouvement charismatique. Ils ont fait une erreur de base qui vient du protestantisme, qui est de confondre justement ce premier type de grâce, qui sont donc des dons qui peuvent être attribués et retirés par Dieu, et qui font du bien ponctuellement, bien entendu, mais un bien qui est extérieur à l'âme, c'est généralement un bien au corps, ou un bien pour l'intelligence, mais qui ne touche pas, encore une fois, la vie de la grâce. Et puis ce deuxième grand groupe de grâce, qui est la grâce qui, elle, unit à Dieu, qui touche l'âme et qui fait vivre de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grâce, donc, soit actuelle, soit habituelle, ou appelée aussi grâce sanctifiante. D'accord ? Donc il faut ne pas confondre ces deux sortes de grâces, car si on les confond, c'est ce que font les charismatiques, eh bien, on recherche absolument cet aspect sensible des grâces extraordinaires qui, par ailleurs, ne sont pas dans leur manifestation. Ça peut arriver que ça ne vienne pas forcément de Dieu. Le démon est capable de donner des dons comme ça à des hommes pour justement singer Dieu. Bon, mais je mets à part cet aspect-là. Indépendamment d'aspects démoniaques qui peuvent arriver dans certaines manifestations charismatiques, il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas confondre charisme et vie sanctifiante, de grâce sanctifiante. Donc je mets de côté maintenant les charismes et je m'intéresse uniquement à cette vie de notre âme, à cette vie de la grâce sanctifiante. Alors on la redivise en deux. Elle est soit grâce actuelle, soit grâce habituelle. Les noms sont faciles, les adjectifs sont faciles à comprendre. Grâce actuelle, Dieu nous donne un secours surnaturel, c'est de la grâce, hein, et surnaturel au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une vie de Dieu dans cette grâce actuelle, pour mouvoir notre liberté à un acte ponctuel précis. Et cela, nous en vivons constamment. Nous en vivons constamment parce que Dieu est sans cesse à nous secourir, à nous donner ses biens, ses richesses, et il le fait que nous soyons dans la grâce, dans l'état de grâce ou non. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu veut toujours nous sauver, nous le savons bien. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut son salut. Eh bien, il va sans cesse revenir à l'assaut, même d'une âme qui a perdu la vie de la grâce, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, la grâce habituelle. Et sinon, ce serait décourageant, parce que le moindre péché mortel nous barrerait définitivement la route à la vie de la grâce. Eh bien, Dieu a prévu cela. Il veut donner son bien, il veut se donner. Et donc, pour le pécheur, celui qui est en état de péché mortel, il va lui donner des grâces qui ne peuvent être qu'actuelles. C'est-à-dire, c'est une inspiration, c'est un secours, c'est un moyen, c'est une circonstance, un événement qui vont le faire réfléchir, qui vont le mettre dans une situation de rencontrer un prêtre, de rencontrer un laïc qui va parler, etc. Vous voyez, tout cela, Dieu se sert de tout pour amener cette âme à la conversion. Amener cette âme à se dire, j'ai péché et je retourne à Dieu, comme l'enfant prodigue l'a fait. Vous savez, l'enfant prodigue qui avait demandé, enfin, c'est une parabole, mais la parabole est tellement précise qu'on voit bien tout le cheminement de la vie de la grâce et et du péché d'abord. L'enfant prodigue qui a demandé à son père la part d'héritage et qui s'en va pour la dilapider dans la débauche et qui se retrouve ruiné en très peu de temps, obligé pour gagner sa vie de garder des cochons. Et il n'a même pas de quoi se nourrir tellement il est mal payé. Et puis il se souvient de cette vie qu'il avait dans une maison riche avec son père et son frère et il se dit je vais retourner chez mon père. Je vais retourner, il sait qu'il a péché, mais il se dit, je serai employé, je ne serai plus fils, j'ai été indigne de mon père, je serai au moins un employé de la maison de mon père. Et il se lève, nous dit le Saint-Luc, et il retourne chez lui, et son père l'attendait. C'est cette magnifique scène du retour de l'enfant prodigue, un très très beau tableau d'ailleurs de Rembrandt, il me semble, qui fait un père, qui est presque une trinité, c'est magnifique, on a le manteau du père qui entoure le fils, et on retrouve presque une représentation de la Sainte Trinité dans cela, alors qu'évidemment c'est un retour au père qui est dans cette parabole. « J'ai péché contre vous, mon père, et contre le ciel. » Et il y a ce magnifique pardon qui est accordé par le père au fils prodigue, et le veau est sacrifié pour fêter ce retour. Eh bien, pour en arriver là, Dieu a donné une grâce actuelle. Dieu a donné une situation catastrophique, se retrouver à garder des cochons quand on était fils d'un riche propriétaire. Et cette situation, l'homme, le fils prodigue, c'était par sa faute qu'il était arrivé là. Et en même temps, c'est Dieu qui va le retirer, c'est Dieu qui va le susciter, cette contrition. Ce sont des grâces actuelles. La grâce sanctifiante, la grâce sanctifiante, elle est symbolisée par le manteau propre, le manteau et l'anneau que va lui redonner le Père en signe de retour de l'amitié du Fils au Père. Tous les détails de cette parabole sont très, très riches de sens et nous font un beau résumé du retour à la vie de la grâce. Eh bien, voilà ce que Dieu fait par des grâces actuelles. Les grâces actuelles sont aussi données à ceux qui sont en état de grâce, bien entendu, puisque ce sont ces grâces actuelles qui vont nous permettre, lorsque nous sommes en état de grâce, de faire tel et tel bien. Telle inspiration nous fait dire, bah, tiens, je vais faire ce bien à mon prochain qui en a besoin. Je vais aller prier au Saint-Sacrement. Je vais éviter de faire tel péché qui m'est... je suis dans une tentation, je vais éviter de le faire. Tout ça, ce sont des grâces actuelles qui me permettent de faire le bien, surmonter une tentation, etc. Voilà ces grâces actuelles qui sont donc surnaturelles, bien sûr, ce sont des grâces qui sont gratuites comme toute grâce. Le mot grâce vient de gratis, gratia. Et tout ça, ça a donné en français gratuit, gratuité. Eh bien, nous avons des secours en permanence de la part de notre Dieu. Et cette permanence, cette insistance, Dieu ne cesse pas de nous solliciter de ses biens, eh bien nous, face à cela, nous mettons des obstacles. Nous mettons combien d'obstacles, combien de grâces actuelles nous ont été proposées dans notre vie, on ne peut même pas les compter. Combien de grâces actuelles auxquelles nous n'avons pas forcément répondu, auxquelles nous avons répondu par « on verra plus tard, on attendra la suivante » ou autre réponse qui manquait d'amour. Et puis la grâce sanctifiante, alors c'est la plus belle bien sûr, parce que elle implique cette permanence d'une amitié avec Dieu, cette permanence, cette habitude de la présence de la grâce. C'est cette eau dans l'éponge de tout à l'heure, si vous voulez, qui était là en permanence et qui nous permet de faire que tout acte soit surnaturel. Dès lors que nous sommes en état de grâce, tout notre être est trempé de la vie de la grâce et donc tout notre agir qui dépend de notre être, eh bien, est surnaturalisé. Et donc la moindre de nos actions se trouve surélevée d'une valeur que nous ne lui avons pas donnée à proprement parler, ça ne vient pas de nous cette grâce, mais c'est Dieu qui nous la donne cette grâce, eh bien la moindre de nos actions a une valeur humano-divine, à la fois humaine et divine. Humaine parce que c'est bien nous qui faisons cette action, et c'est bien nous pleinement, totalement, et en même temps, puisque nous sommes dans la vie de la grâce, cette action est aussi divine. Elle est divinisée. N'ayons pas peur de ces mots. Et c'est pour ça que chacune de nos actions, lorsque nous sommes en état de grâce, est à la fois humaine et divine. Et nous avons comme image, même si pour nous c'est beaucoup moins élevé, mais en notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'il soit Dieu et homme fait que chacune de ses actions est à la fois humaine et divine. Et en même temps, pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui lui a permis de mériter constamment, en tant qu'homme, le mérite ne peut être le fait que d'une créature en dépendance, donc c'est dans sa nature humaine que notre Seigneur mérite. Ce n'est pas quant à sa nature divine, il n'y a pas d'obtention de quelque chose en plus, de droit à une récompense pour Dieu. Ce serait absurde, ça voudrait dire qu'il ne serait pas Dieu, il n'aurait pas la perfection. Donc c'est bien sûr uniquement quant à sa nature humaine que notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, mérite. Mais ses mérites sont infinis, parce qu'il est depuis sa conception dans cette union parfaite à la nature divine, et donc chacun de ses actes, chacune de ses pensées, prenons ce qu'il y a de plus léger, de plus abstrait en nous, se retrouve à être ce qu'on appelle méritoire, c'est-à-dire capable d'obtenir un droit à une récompense. Un mérite, c'est un droit à une récompense surnaturelle. Et donc, lorsque nous sommes en état de grâce, lorsque nous sommes dans cette grâce sanctifiante, et que nous recevons des grâces actuelles, c'est-à-dire ces inspirations, ces aides ponctuelles, transitoires que Dieu nous donne, eh bien, nous multiplions des actes qui sont surnaturels. Or, nous savons que nous sommes jugés, nous serons jugés sur ces actes surnaturels. Nous ne serons pas uniquement jugés sur notre foi, mais aussi sur nos œuvres, ne l'oublions pas. Eh bien, ce sont ces œuvres que nous aurons produites qui seront dans la balance de nos actes, de bons actes face à nos mauvais actes. Et donc, la vie de la grâce, la vie de notre âme, tout simplement, doit bien sûr être une vie de croissance de cette vie de la grâce. Parce que nous avons des degrés de grâce différents. La grâce en elle-même, c'est sûr, est divine. Toute grâce est complètement divine. Mais dans ses effets, dans l'intensité et dans la place que nous lui donnons dans notre vie, là, il y a variation. Et nous le savons, c'est de cette variation que dépendra la vision béatifique, le bonheur éternel, ce bonheur de vivre d'une contemplation parfaite de Dieu, sera variable. Dieu ne varie pas, mais nous, le point de vue que nous aurons de Dieu, la vision que nous aurons de Dieu, l'intimité que nous aurons avec Dieu, sera variable d'une âme à l'autre. Il n'y aura pas d'égalité au ciel, strictement. Tous au ciel, nous contemplerons le même Dieu, bien entendu, mais à des degrés divers. Et à quelle variation? Eh bien, en fonction du degré de grâce que nous aurons reçu et permis de dilater, de faire croître sur cette terre. Alors évidemment, il faut bien comprendre que nous avons un intérêt numéro un qui est de faire croître, de laisser croître le plus possible ce degré de grâce, puisque plus notre être sera imprégné de la grâce de Dieu, autrement dit, plus il y aura d'eau dans l'éponge, si vous voulez, et bien plus notre vision de Dieu sera grande. Mais on ne pourra jamais l'épuiser, de toute façon. Seul le Verbe, sauf les personnes divines, épuisent la connaissance de Dieu. Même la Sainte Vierge Marie a une vision limitée de Dieu. Mais cette limitation nous fait quand même largement envie, puisqu'elle est dans un degré extrême pour une créature. C'est le degré le plus extrême d'une créature. Alors, cette vie de la grâce sanctifiante, eh bien, il faut l'examiner maintenant un petit peu plus profondément pour en voir les effets. Parce que si nous en comprenons les effets, si nous cherchons à en voir, à en goûter les effets, eh bien nous aurons cet appétit de vouloir toujours plus vivre de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa grâce. Parce que, j'insiste exprès, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ que cette vie de la grâce est obtenue, ne l'oublions pas. C'est par ses dons directs, mais surtout aussi par ses sacrements, par la prière, par nos bonnes œuvres, que nous recevons toujours plus cette grâce. Alors, ces effets, quels sont-ils? Eh bien, nous devenons amis de Dieu. Alors, cette expression, elle est toute fade, toute pâle, par rapport à la réalité qu'elle constitue. Qu'est-ce que c'est qu'être ami de Dieu? Alors on a vu, vous avez vu le péché, que nous étions ennemis de Dieu. Mais c'est pareil, on a du mal à savoir ce que c'est que le péché, on a du mal à en voir le côté scandaleux du péché. Face à ce Dieu Tout-Puissant qui a tout droit sur nous, puisqu'il nous a donné l'être et qu'il nous maintient dans l'être, et qu'en plus il nous a donné sa propre vie, sa grâce, sa vie surnaturelle, eh bien, nous nous permettons d'en faire ce que nous voulons et de nous révolter, de nous insurger contre sa volonté, et ça constitue des péchés. Donc. Et nous avons du mal à en voir la gravité, parce que, eh bien, on oublie vite nos péchés, et en plus, on se contentera de se dire oui, effectivement, c'était pas très bien, je reconnais que j'ai pas fait vraiment ce que j'aurais dû. Mais nous sommes des êtres très volatiles, notre intelligence, notre volonté se porte sur une chose, sur une autre. On a du mal à voir l'aspect profondément injuste du péché. Et d'ailleurs, je vous donne deux moyens dans votre année, dans votre vie après la retraite. Et c'est assez facile de méditer sur deux moyens, on pourrait dire deux instruments de mesure de la gravité du péché. Le premier, c'est l'enfer, puisque l'enfer vient châtier le péché. Alors si le péché, on ne sait pas trop ce que c'est, l'enfer, là, on commence déjà à mieux cerner. Si la conséquence du péché, c'est l'enfer, c'est que le péché, c'est très grave, puisque l'enfer, on sait ce que c'est très grave. Et puis le deuxième, qui est plus consolant, mais qui n'est pas moins efficace, c'est la passion de notre Seigneur. La passion de notre Seigneur, on sait aussi qu'elle est très grave, et que toutes ces souffrances que Jésus a voulu souffrir pour racheter nos péchés, eh bien, donnent un poids à ce péché, puisqu'il a fallu la passion de notre Seigneur, tout l'amour donné jusqu'à la fin de notre Seigneur, c'est que le péché, c'était quand même quelque chose de grave, bien entendu. Alors, revenons à la grâce, nous sommes amis de Dieu. Par la grâce, nous sommes amis de Dieu, ça veut dire que nous retrouvons cette intimité, cette vie partagée avec Dieu. Et ça, c'est un cadeau sur lequel on ne doit pas finir de méditer, que nous n'avons pas à finir de contempler, parce que cela ne nous est pas dû. Et dans la mesure où ça ne nous est pas dû, ça doit nous maintenir dans l'humilité et dans la reconnaissance. Une âme qui se rend compte qu'elle a reçu quelque chose qui ne lui était pas dû, va sans cesse penser à son donateur, à son bienfaiteur. Si vous aviez appris que, étant petite, vous avez été sauvé d'une noyade, sauvé d'un accident, je ne sais quoi, d'un incendie, par quelqu'un, je suis convaincu, imaginez que vous en ayez quand même quelques traces, une cicatrice, quelque chose. À chaque fois, en voyant la cicatrice, vous allez penser que ça s'est produit, vous étiez petite et vous avez été sauvé par telle personne. Et en même temps, inévitablement, à moins d'être monstrueuse, vous allez penser à cette personne. Vous allez vouloir la remercier régulièrement, au moins une fois par an, par exemple, etc. Vous allez avoir cet état de reconnaissance naturelle envers ce bienfaiteur, envers la personne à qui vous devez la vie ou la survie. Eh bien, nous avons ce Sauveur, nous avons cette personne qui est divine, qui nous a sauvés, et non pas simplement d'un incendie, mais qui nous a sauvés des feux de l'enfer, oui. Et qui nous a retirés pour, non pas simplement nous laisser au bord de l'eau ou au bord du feu, mais qui nous a retirés pour nous faire partager ses biens, nous accueillir à sa table, à son banquet céleste, alors que nous étions bons à rester dans ce feu ou cette eau. Alors nous devons bien comprendre cela pour comprendre ce que c'est qu'être ami de Dieu. Le jour de l'ordination sacerdotale, le prêtre, à la fin de la messe d'ordination, a cette belle parole qui est tirée de Saint Jean. On lui dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Et il s'est chanté par la chorale. Eh bien, c'est pour montrer que le prêtre, le jeune prêtre, le tout jeune prêtre, le tout frais prêtre, eh bien, se retrouve à être non plus simplement serviteur, non plus mis au rang de ceux qui vont être à l'écoute, mais ami de Dieu. Ami de Dieu. Eh bien, cela existe à son niveau pour tout baptême. Tout baptisé se retrouve non plus simplement créature, mais créature rachetée, créature lavée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, créature surélevée à la vie surnaturelle et désormais partageant cette vie surnaturelle. Deux amis, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se voient, ils échangent leurs biens. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, on cherche à lui faire du bien. Et donc, faire du bien, c'est donner des choses, c'est discuter, c'est aimer. c'est sous toutes les formes, c'est vouloir le bien de l'autre. Eh bien, voilà ce à quoi nous sommes portés, surélevés. Nous devenons amis de Dieu dans la grâce. Et en même temps, et ça c'est intéressant, saint Thomas qui le souligne, dans une amitié, il faut une certaine égalité. Non pas que les deux personnes se ressemblent absolument, mais il faut qu'elles puissent partager ce que l'une va apporter à l'autre, l'autre va donner autre chose. Mais il y aura une espèce d'égalité dans les échanges, non pas forcément quantitatifs ou matériels, bien entendu, mais il y a un équilibre qui s'opère. Sinon, il n'y a pas l'amitié, justement. Et s'il n'y a pas cette reconnaissance d'une certaine ressemblance, il n'y aura pas l'amitié. Eh bien, dans l'amitié surnaturelle avec Dieu, il y a une certaine égalité. Alors, comment pouvons-nous avoir une égalité entre Dieu et nous? Eh bien, c'est la grâce qui l'institue, qui l'instaure. C'est justement parce que Dieu nous donne sa vie divine, qui trempe tout notre être, qu'il se reconnaît en nous. Il se reconnaît, il reconnaît du divin en nous. Ce divin, c'est lui qui l'a mis, mais il reconnaît cette vie divine, cette vie du Christ. Car attention, cette grâce, elle est passée par le Christ. Il reconnaît son Fils en nous. Le Père reconnaît le Fils en nous. Et donc, nous sommes bien, d'une certaine façon, bien sûr, à égalité. Nous avons du divin en nous. Ce n'est pas nous qui l'avons produit, ce n'est pas nous qui l'avons, qui en sommes à l'origine, mais nous sommes effectivement ressemblants. Nous sommes à la ressemblance de Dieu, et non plus simplement à son image. Souvenez-vous de cette distinction qui est faite dans la Genèse, lorsque Dieu parle de la création d'Adam et Ève, il les créa à son image et à sa ressemblance. L'image, je l'ai dit hier, c'est l'intelligence et la volonté, c'est cet aspect rationnel de la nature humaine. Et la ressemblance, eh bien, c'est ce don de la grâce. Ressemblance, c'est-à-dire, il y a le mot semblable dans ressemblance, il y a similis, il y a ce qui est semblable. Eh bien, cette ressemblance instaure une certaine égalité avec Dieu, entre la créature et Dieu. Et c'est cela qui nous rend amis de Dieu. Et nous sommes véritablement amis de Dieu lorsque nous sommes en état de grâce. Nous sommes plus que cela, nous sommes aussi fils adoptifs de Dieu. Jésus-Christ est le fils par nature de Dieu, et en étant greffé sur Jésus-Christ, hanté, comme dit ENTS, hanté sur Jésus-Christ, comme dit saint Paul, eh bien nous devenons aussi fils de Dieu, mais par adoption. Et cette adoption nous donne les mêmes droits que le fils naturel, le fils l'unigintus, le fils unique de Dieu. Eh bien, ces mêmes droits, ce sera le droit de vivre de la béatitude éternelle. Cet héritage dont il est parlé dans l'Évangile, par les paraboles, par la prédication de notre Seigneur, qui est plus largement que les paraboles, eh bien, c'est bien un gain, un héritage, c'est un gain qu'on obtient de ses parents. Eh bien, c'est un héritage parce que nous sommes fils adoptifs, nous avons droit à cet héritage de la béatitude éternelle. C'est-à-dire cette participation définitive de la nature divine. Nous devenons aussi temple de la Sainte Trinité, puisque cette ressemblance est une participation de la vie divine. Cette vie divine ne se divise pas. Bien sûr, elle est limitée en nous parce que nous sommes limités. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas la totalité. Nous ne pouvons pas comprendre au sens étymologique de prendre en totalité Dieu, parce que seul Dieu peut se comprendre et se connaître en totalité. Mais nous avons quand même véritablement Dieu tout entier au sens, c'est la Trinité, les trois personnes de la Sainte Trinité qui vivent en nous. C'est pour ça que nous disons, nous sommes le temple saint de Dieu lorsque nous sommes en état de grâce. Et puis, autre conséquence, c'est que la vie de la grâce est ce qu'on appelle, ce que saint Pierre appelle, semence de gloire. C'est-à-dire que c'est le début de la vie de la gloire au ciel. La gloire, c'est cette lumière, ce rayonnement qui vient nous faire vivre de la lumière de Dieu et de la vision, c'est la vision béatifique. Cette reconnaissance, cette lumière qui vient nous illuminer en Dieu, sur Dieu, de Dieu. Eh bien, la grâce est de même substance, de même nature que la vision béatifique. Il n'y a pas de rupture entre la vie de la grâce sur cette terre et la vision béatifique. Alors bien sûr, il y a une différence de nature au sens d'éclat. Nous vivons ici-bas avec la foi, donc dans une certaine obscurité. Nous vivons la foi qui est quand même surnaturelle, bien entendu, mais nous ne vivons pas dans une vision, c'est une vision opaque, c'est une vision en miroir, dit saint Paul. Alors que dans la gloire, nous vivrons en Dieu, la Trinité ne mettra plus d'obstacles, il n'y aura plus d'opacité, même si, encore une fois, il y aura des degrés dans cette vision d'intensité. Un petit peu comme ces lumières halogènes, là, qui ont un curseur qui vous rend la lumière plus intense. Bien, il y aura de plus, on verra mieux, plus ou moins bien, en fonction de notre état de grâce, ce Dieu dont la lumière sera lui-même. Attention, c'est difficile à saisir. Cette semence de gloire est donc de même nature que cette vie trinitaire après notre mort dans le ciel. Autrement dit, si nous l'avons bien compris, toute cette vie ici-bas, c'est bien la préparation du ciel. Sœur Élisabeth de la Trinité parle toujours de ce début de ciel, de ciel de mon âme, elle parle, en parlant de la vie de la grâce. C'est une très belle image. C'est le ciel dans mon âme, le ciel sur cette terre, donc. Et oui, la vie de la grâce, c'est déjà le ciel sur cette terre. Alors, bien sûr, de façon... avec tous les inconvénients de la vie de la terre, la lutte, la croix, les difficultés, les hauts et les bas de notre vie, mais c'est déjà, la vie de la grâce est déjà une récompense. Et je voudrais terminer justement par cette récompense, qui est un autre aspect de la vie de la grâce, la vie sanctifiante, c'est que nous méritons, nous avons, parce que nous sommes en vie unis à Dieu, nous méritons un accroissement de cette grâce et une récompense éternelle. Je l'ai dit tout à l'heure, la récompense de la vie trinitaire sera proportionnée à nos mérites. Eh bien, plus nous méritons, c'est-à-dire plus nous accomplissons d'œuvres faites en état de grâce, plus nous méritons de croître dans cette grâce sanctifiante, donc plus notre être est intimement uni à Dieu, et plus nous serons récompensés de cette union à Dieu, parce que Dieu donne plus à celui qui lui ressemble plus. Et donc, cette vie de la grâce, qui est une ressemblance avec Dieu, eh bien, nous devons chercher à la faire croître. Alors, c'est ça, votre vie, qui vous attend. Vous le saviez déjà, mais on fait comme un redémarrage dans une retraite. Et cette retraite doit être déjà le plus intensément possible un désir de ressembler davantage à notre Seigneur Jésus-Christ dans ce don de la grâce qu'il est prêt à vous faire abondamment et surabondamment. La vie du chrétien, c'est une vie de grâce sanctifiante, et non pas, j'y reviens, de grâce charismatique, voyez. C'est là la grosse différence, et je pense que là vous avez bien compris, c'est cet écart complet qu'il y a entre ces grâces données gratuitement pour le bien d'une communauté ou tel bien particulier d'un corps. Ça n'a rien à voir avec cette ressemblance intérieure, surnaturelle, qui nous donne une ressemblance avec Dieu. Le fait d'avoir des charismes ne nous fait pas ressembler à Dieu et ne nous donne pas le salut éternel. Attention. Et donc, ne recherchons pas ce côté extraordinaire de notre vie. Ne cherchons pas non plus à multiplier les aspects un petit peu, fantastiques, entre guillemets, qui peuvent être dans notre vie, dans la vie ou de la vie d'autres personnes. Je pense à... la recherche un petit peu systématique d'apparition, de choses extraordinaires, voyez. Ça n'est pas ça qui nous est demandé. Il ne nous sera pas demandé si on connaît la totalité des apparitions de Notre-Dame sur la Terre. Ça n'est pas requis, strictement. Attention, ça n'est pas ce sont des aides que Dieu nous donne dans les vraies apparitions, donc la Sainte Vierge, le bon Dieu apparaissent, notre Seigneur apparaissent, pour nous stimuler, pour nous rappeler. Mais ça n'est qu'un rappel. Tout a déjà été fait normalement par la révélation, par la vie de la grâce et par les sacrements. Voilà où vous puisez la vraie croissance de la vie surnaturelle. Alors, dans cette méditation que nous allons faire, eh bien, il faut demander au Saint-Esprit, puisque c'est lui qui opère cette vie de la grâce, qui la distribue, qui la donne. Rappelez-vous, avant la Pentecôte, avant l'Ascension même, notre Seigneur prévient ses apôtres qu'il va leur envoyer le don de Dieu, le Saint-Esprit, le Paraclet. C'est pour agir à distance désormais. Notre Seigneur ne sera plus sur cette terre, notre Seigneur ne sera plus physiquement présent pour tous les hommes qui vont suivre. Il sera présent substantiellement dans l'Eucharistie, mais il ne sera plus physiquement présent, en chair et en os, c'est ça que je veux dire. Eh bien, il donne son esprit, et son esprit, là, sera permanent, sera donné à tous ceux qui seront unis par la foi en Jésus-Christ. Alors, demandez au Saint-Esprit de vous faire mieux comprendre ce qu'est la grâce, bien sûr. On n'a jamais fini de creuser, de découvrir avec émerveillement ce don de Dieu, et en même temps de chercher, évidemment, éliminer tous les obstacles à cette grâce. Et ils sont nombreux, c'est toute notre volonté. Si elle agit en solo, en indépendante, eh bien, elle se retrouve à mettre des obstacles, des freins à la vie de la grâce. Parce que Dieu veut toujours agir. Et je termine juste par un point que j'aurais dû aborder un petit peu plus tôt. C'est que, mais aussi une erreur là-dessus, c'est de croire, je l'ai dit, notre activité, notre acte, nos actions, lorsqu'elles sont faites en état de grâce, sont tout entières de nous et tout entières de Dieu. Et là, il y a eu toutes les erreurs sur la grâce, qu'il faut quand même essayer de clarifier rapidement. Ça n'est pas 50-50. C'est tout nous qui faisons l'action et c'est en même temps tout Dieu. Alors la grande question, c'est de dire, mais comment on est libre si c'est la grâce qui me fait agir? Et si c'est moi qui agis, comment je peux mériter surnaturellement, puisque c'est moi qui agis? Eh bien, c'est justement, il faut tenir cet équilibre parfait de, comme je dis aux élèves, 100% nous, 100% Dieu. Et ce 100% est tout à fait possible, puisque c'est Dieu qui nous donne l'impulsion de départ, mais il utilise notre volonté, notre être tout entier, tel que nous sommes. C'est bien nous qui donnons l'aumône, c'est bien nous qui prions Dieu, c'est bien nous qui faisons telle action domestique, du ménage, de vaisselle, etc. Et pourtant, nous la faisons sous l'impulsion de Dieu. Reprenons l'image de l'éponge, c'est bien l'éponge qui nettoie le tableau. Et il y a l'eau qui fait nettoyer le tableau, mais c'est aussi l'éponge tout entière. Et toute l'éponge est monopolisée pour cette action. Alors, demandez au Saint-Esprit bien de vous indiquer clairement dans cette retraite quels sont les obstacles à son action. Parce que c'est lui qui agit, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais il y a des obstacles, il y a des zones d'ombre, comme le disait Mgr Lefebvre, je crois, hier soir. Eh bien, on garde une partie cachée, on garde un domaine réservé. Eh bien, il faut éliminer pendant la retraite le plus possible ces domaines réservés pour que le Saint-Esprit puisse agir pleinement avec nous, parce que notre liberté est totalement...